Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical de Invino Sud Radio. Notre émission est toujours en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous nous écoutez dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur votre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'appellation Irulegui, un éloge des vieux vins, toujours avec modération ou pas, on verra tout à l'heure. Un super restaurant à Saint-Marcel, en Savoie, et puis le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Hélène Pio, Laure Gasparotto, André Derieux, Philippe Forbach et David Cobold. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Alors André, vous qui êtes auteur et également fondateur de Wine Tourism France, nous partons entre la Phénicie et puis le Jourdain aujourd'hui.
Écoutez, je vais vous parler aujourd'hui du plus vieux et du plus gros cépage, du plus gros des cépages, les raisins. C'est pas non plus plus facile à prononcer, alors on gardera ça pour la fin. Mais en tout cas, cette méga grappe, cette super grappe, tout le monde l'a déjà vu et en a entendu parler. Si je vous dis la Bible, si je vous dis que des explorateurs envoyés par Moïse pour reconnaître la terre promise entre Méditerranée et Jourdain en sont revenus en portant une énorme grappe de raisin sur un bâton et sur leurs épaules. Bref, si je vous dis la grappe de Canaan, vous commencez à voir de quoi il s'agit.
Au petit-fils de Noé.
Un petit peu de lecture, le livre des Nombres, chapitre 13, écrit il y a près de 30 siècles. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Prenez des fruits du pays ». C'était le temps des premiers raisins. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. C'est carrément l'illustration de la révolution néolithique, la transition entre les populations nomades et les peuples cultivateurs. Cultivateurs, vignerons, bien sûr.
Vous suivez, Hélène, pour l'instant.
Cette histoire d'une grappe énorme, presque de la taille d'un homme, a connu une fortune iconographique en peinture, gravure, sculpture et art décoratif considérable. L'historien Flavius Joseph raconte qu'une telle grappe au format colossal figurait au-dessus de la porte du temple de Jérusalem, détruit en 70 de notre ère. Autre apparition, on la retrouve sur des mosaïques comme celle du 5e siècle, exceptionnelle, découverte cet été à Ucoq, près du lac de Tibériade, sur les vitraux de la cathédrale de Chartres, dans les enluminures des commentaires de la Bible de Nicolas de Lyre au 14e siècle, sur la façade de la cathédrale du Duomo, sur les stalles de la collégiale Notre-Dame de la Garge de Bretagne au 16e siècle, et sur une toile de Nicolas Poussin au 17e siècle.
Et sur quelques étiquettes de vin.
On va en parler après, effectivement. Mmh. Le tableau de Poussin que l'on peut voir au Louvre est en lui-même un roman formidable. D'abord, c'est un des derniers tableaux du peintre, qui va mourir l'année suivante, d'une série de quatre consacrés aux saisons. De plus, il fut réalisé pour un Richelieu, pas le cardinal, mais son petit-neveu. Et le duc a perdu ce tableau en 1665, l'année d'après, en jouant au jeu de paume contre le roi Louis XIV, qui était à l'époque en pleine forme, qui avait 27 ans. Il a pas perdu que ce tableau, il a perdu 25 tableaux à cette désastreuse partie de jeu de paume. En tout cas, ce tableau, l'automne, ou la grappe de Canaan, donc visible au Louvre, elle représente, à mon sens, une synthèse entre les traditions antiques, bibliques et chrétiennes, et on peut y voir autant la manifestation, la célébration de Bacchus, que celle de la Terre promise, que celle du Christ raisin, du pressoir mystique, autre thème iconographique. Moi, c'est souvent effectivement que lors de mes visites œnotouristiques dans différents vignobles, je rencontre des sculptures de cette scène, comme au château Smith au Lafitte, avec le sculpteur tchèque Ivan Teimer, dans le petit village de Marsannay-la-Côte avec une sculpture de Christian Mass, mais effectivement aussi sur des céramiques, sur des enseignes de tavernes, sur des étiquettes de vin, sur des publicités de la fin du 19e siècle, je pense aux engrais d'Obi. Et assez naturellement, c'est le logo du ministère du tourisme israélien. Très récemment, le monument consacré au plus grand spécialiste vivant de l'espèce vitis des vignes, qui est l'empélographe Pierre Gallet. Voilà. Mmh. Il a un petit monument.
J'allais dire José Vermoz, mais il est plus jeune.
Voilà. Et Pierre Gallet a son monument, déjà, à Supagro, à Montpellier, dans l'école d'agriculture. Et il y a ce cépage comme élément central de son monument. Un vignoble a mis en scène, en fait même, FE, accent circonflexe TE, cette grappe de Canaan, et ce dès le XVIIe siècle, en 1665, décidément il s'en est passé cette année-là des choses. Et à l'époque, ce vignoble n'était pas français, mais il était franc-comtois. C'était le vignoble d'Arbois, et il s'agit de la fameuse fête du Biou, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Biou, qui veut dire le plus beau. Cette fête rassemble des milliers de personnes et consiste en procession, en bénédiction autour d'une énorme grappe Concrètement, un assemblage de 100 kilos de raisins rouges et blancs, vœux et symboles de vendanges abondantes. Chaque année, donc, le premier dimanche de septembre. Et cette fête est inscrite au patrimoine, à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français, pour le moment. Alors, dans les faits, dans la réalité, ce cépage est très rare. Outre Israël, il produit, m'a dit l'empélologue suisse José Vouillamoz, des vins de table en Roumanie, que je n'ai pas encore dégusté. Il est en tout cas présent, et c'est unique en France, dans les collections de cépages du mas de Domas-Gassac, le célèbre domaine viticole du Languedoc créé par Aimé Guibert, qui est absolument tenu à l'avoir dans cette collection parce qu'il le juge digne d'avenir.
À Agnane.
Alors, il est peut-être temps que je vous dise le nom de ce cépage.
Oui, parce que là, le suspense est vraiment insoutenable, André.
On est accrochés à la grappe.
Un nombre d'auditeurs en transe.
Tout à l'heure, je vous ai donné un indice. Je vous ai parlé de la vallée d'Escol. Il s'agit du Néel Escol. Aussi raisin de la terre promise ou raisin blanc de Jérusalem. Il est en tout cas inscrit au très officiel Vitis International Variety Catalogue sur le numéro 8467. En revanche, il n'est pas inscrit au catalogue des variétés cultivables en France.
Ah, dommage.
C'est un raisin blanc, donc. Bon. Le poète Edmond Flegg a parlé de l'or de ses grains géants. Il peut produire des grappes de 50 cm, voire de 1 mètre de long, chacune semblant d'ailleurs constituée de plusieurs raisins. J'étais il y a quelques jours avant les vendanges, donc, avec Alexandre Vrolland, qui est responsable de la qualité des domaines Domas-Gassac, dans les parcelles de collection de cépages. Malheureusement, le mildiou était passé par là et il affecte particulièrement ce cépage oriental qui était donc un petit peu abîmé. Pourtant, j'ai pu constater que ce cépage envoie une vigueur de la poussée de ses rameaux assez importante. Il les envoie très loin. Les spécialistes disent qu'il est très acrotone, un petit peu comme le Mourvèdre. Et la structure de la grappe est à la fois forte, lâche, et avec beaucoup d'ailerons, avec beaucoup d'épaules, des épaules assez
comme
nombreuses.
Comme le Nebbiolo, alors.
Oui, et les baies sont en forme d'olive, ce qui lui vaut son autre surnom d'olivette. Un dernier point.
Rien ne nous dit
que le vin du repas des noces de Cana est issu de grappes de Canaan. Je parle de la première partie du repas, puisque le vin de la fin du repas est issu de grappes infiniment plus célestes.
Merci beaucoup André, c'est très sympa. Une vidéo sur Radio, on retrouve maintenant Philippe Forbach, président de la sommellerie française, pour l'Irouléguy.
On va redescendre
nous
sur terre.
Dans le sud-ouest, c'est ça.
Bienvenue dans le sud-est, bienvenue en Nouvelle-Aquitaine.
Ce sont des vins d'hommes, ça, non?
Exactement, en Basse-Navarre, plus précisément des Pyrénées-Orientales, et plus sûrement au Pays Basque, parce qu'il y a une grande fierté là-bas, c'est d'appartenir effectivement à cette communauté particulière du Pays Basque. Alors, quand on évoque ce coin-là, Biarritz, Irouléguy, etc., on peut penser au chocolat. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu beaucoup d'importations qui sont passées par là. On peut penser au cidre, on peut penser aux cerises,
on peut penser à Hélène Pio et leur Esperanto sur un surf.
On peut penser au surf, bien entendu.
Au cochon noir.
Bayonne n'est pas loin, le cochon noir de cette région, c'est juste merveilleux. Mais il y a aussi le vin. Ah. Un vin qui a fait à un moment donné un peu rigoler. C'est vrai que les gens disaient, oui, l'Irouléguy, c'est sympathique, mais c'est pas tout à fait le vin qu'on attend. Eh bien, il y a une belle évolution de ce vignoble ancien, puisque déjà, il existait au Xe, XIe siècle. C'est grâce au pèlerinage vers Saint-Jean de Compostelle, finalement, que les moines de Roncevaux ont créé ce vignoble pour faire maison d'hôte. C'était les premières routes quasiment une touristique de l'époque. Hein. On s'asseyait, on s'installait, on mangeait et on buvait pour
quelques
se réconforter.
Écus, hein.
Et quelques écus, ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y avait l'hospitalité qui était là. Et donc, sur ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle, il y avait effectivement ce vignoble qui a été créé à l'époque. Après la signature du traité des Pyrénées, 1659,
on a beaucoup parlé
il n'y a pas très longtemps, les moines quittent leur vignoble et c'est les habitants de la région qui finalement prennent possession des vignes et s'en occupent. Pendant très longtemps, le vignoble a été extrêmement développé, comme beaucoup d'endroits. C'est étonnant quand aujourd'hui il reste 10 hectares, 20 hectares, ou ici 240 hectares aujourd'hui, pour imaginer qu'il y avait des milliers d'hectares à l'époque. Qu'est-ce qui est passé par là ? Monsieur Phylloxera, ou madame, on ne sait pas trop si c'est... Voilà, mais en tout cas, ce n'était pas terrible. Et à partir de cette
belle saloperie, hein.
Exactement, de la deuxième partie du 20e siècle, du 19e siècle, pardon, là, la crise est passée par là, et derrière, on a eu beaucoup de mal. Le système des caves coopératives, et c'est intéressant d'en parler, a permis un peu de se restructurer, de mutualiser finalement les efforts et de recréer une sorte de petit berceau viticole qui ensuite s'est développé. Aujourd'hui, ça reste effectivement modeste, 240 hectares pour une appellation. Si on compare à la Romanée ou la Romanée-Conti, c'est beaucoup, mais quand on compare dans une région viticole, c'est assez peu. C'est deux vignobles de deux grands domaines de Bordeaux, si on veut, en surface. Aujourd'hui, il y a une douzaine de vignobles indépendants, parmi lesquels on peut citer Brana, parce qu'ils sont célèbres non seulement pour leur production viticole, mais également pour leurs eaux de vie. Bordato, qui est célèbre pour son vin, mais également pour son cidre, très intéressant. Ametia, pour également son élevage de brebis et ses fromages pyrénéens, notamment le fameux Osso, Irati ou autre. C'est une région très intéressante qui produit essentiellement des vins rouges à partir des cépages Tanat, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon, qui donnent des vins un peu puissants, parfois légèrement rustiques au départ, mais qui s'affinent assez rapidement finalement au bout de 3, 4, 5 ans, ils sont vraiment extrêmement intéressants à goûter. Un peu de rosé, c'est 20% de l'appellation.
Et comment le rosé, Philippe ?
Le rosé est un rosé un peu puissant. On n'est pas dans l'esprit
donc
de rosé.
Donc on est plus Tavel que Provence.
Oui, on est plus Tavel ou plus Bordeaux clairé.
D'accord.
Que rosé, c'est des tanins.
Ce qui est pas mal aussi, David. Hein.
Oui, très bien. Même.
Et des rosés un peu structurés. Et puis il y a le blanc, franchement, qui est super intéressant. Les blancs sont élaborés à partir de Courbus, d'Arufiac, de Petit et de Gros Monsingue. Et il y a un vigneron extrêmement célèbre qui est arrivé il y a quelques années, associé avec Brana, exactement, Jean-Claude Berouette, qui a pendant très longtemps régné au destinée de Pétrus, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Trotanois, la fleur Pétrus.
Qu'est-ce que c'est, Pétrus
c'est un petit vin de pays
comptoir,
du côté de Pomerol, il paraît.
Très sympa.
Voilà. Très sympa, vous
un peu moins cher que le vin dont on a parlé la semaine dernière, mais pas mal du tout. Et donc, avec son savoir-faire, son envie, sa motivation et son réseau aussi, il est arrivé à faire reconnaître la qualité remarquable de ce vin blanc, pour l'essentiel. Travailler avec les équipes de Brana, je le disais tout à l'heure, dans un blanc qui est
délicieux,
en plus
pour moi.
Franchement exceptionnel, dans cette délicatesse, dans cette complexité, dans cette densité en même temps. Le boisé, il maîtrise assez bien ça pour les rouges, mais je trouve qu'il le fait remarquablement pour les blancs, et très intéressant aussi. C'est un vrai vin de gastronomie. Et quand on goûte ça à l'aveugle, bien entendu, on ne peut même pas imaginer que ça puisse se faire en Irulegui. On est dans un grand vin blanc dans l'absolu.
Vous aimez, Hélène, les vins de cette région? Vous connaissez un peu?
Mais je les aime bien, et c'est vrai qu'on ne pense jamais à eux, enfin pas assez souvent en tout cas à eux.
Et les frits, Philippe, ça va être combien à peu près?
Entre 10 et 20 euros à peu près pour la plupart des cuvées. Oui, bon, mais ça vaut la peine de les découvrir, ou peut-être de le redécouvrir, ou enfin de les goûter avant d'en parler, peut-être. Oui.
Merci beaucoup, Philippe Arbrac, merci à tous. Cap sur les vieux vins, est-ce qu'ils sont meilleurs que les jeunes? La réponse dans quelques instants, en compagnie de The David Cobold.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour au restaurant Paravin, Nicolas, nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec David Cobold, cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler des vins anciens, des vieux vins. Est-ce que c'est forcément bon quand c'est vieux, David? Je parle
non,
de vin, messieurs.
Non, c'est pas forcément bon. Non, je vais aller un peu à contre-courant, parce que la tendance, quand même, c'est de voir les vins de plus en plus jeunes, et beaucoup de choses ont milité pour cela. D'abord, le fait que les gens n'aient pas de cave, ou n'aient pas la patience, ou n'aient pas d'argent pour stocker le vin. Les vignerons collectivement se sont adaptés à cette situation et vinifient le vin pour qu'il soit buvable plus jeune. Il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est très bien ainsi. Mais il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain et rejeter les vieux vins. Moi, je viens d'une culture autre. La génération de mon père et mes grands-pères transmettaient leur cave à leurs enfants. Mon père, malheureusement pour moi, a bu sa cave avant son décès, et je trouve qu'il avait raison, parce que c'était à lui d'en profiter, pas moi. Donc je n'ai pas bénéficié de cette situation, mais la tradition était qu'on « lay down wine », c'est-à-dire qu'on les mettait dans la cave, couchés, pour ses enfants, voire pour ses petits-enfants.
Oui.
Du coup, on buvait des vins de Bordeaux, de Bourgogne, parfois de Champagne, qui avaient un âge respectable, 40, 50 ans, c'était pas rare. Hein. Moi, j'ai bu des 28, des 29, des 47, des 45.
1900,
quand j'étais quand j'étais jeune. Alors, je dis ça parce que cet été, donc c'était une anecdote personnelle, cet été, j'ai sorti quelques vins un peu plus âgés de ma cave quand j'avais des gens capables de les apprécier autour. Parce que ça aussi, c'est important, c'est pas la peine de servir des vins vieux qui sont parfois un peu complexes, qui ont des goûts différents des vins jeunes, à des gens qui ne boivent que des vins jeunes. Donc, j'avais une dizaine de personnes autour de la table qui pouvaient apprécier. Et puis, des événements. Parce que le vin vieux, les vieux millésimes et certains vins sont aussi toujours ou très souvent liés à une histoire, hein, un souvenir personnel. J'ai servi, par exemple, un magnum d'un champagne de 73. Je n'avais pas de 75. C'est l'année de naissance de ma fille. C'était pour son anniversaire. mais c'était un Krug 73. Et ce vin était extraordinaire. Alors vous me direz que je fais dans l'élitisme que je viens de dénoncer dans l'émission précédente. Ouais. Mais j'avais acheté ce vin aux ventes aux enchères il y a 20 ans, ça coûtait pas cher. À l'époque, on pouvait acheter des vieux champagnes.
Donc dégorgé il y a plus de 20 ans.
Dégorgé, il y a bien plus de 20 ans. Je pense qu'il était dégorgé vers 80, hein, 85.
Et ça donne quoi?
Alors, c'était la grande cuvée de Krug, et c'était d'une complexité inouïe, avec des arômes et des saveurs de corse d'orange, de pain d'épices, une fraîcheur extraordinaire, moins de gaz forcément, puisque dégorgé il y a longtemps, donc le bouchon s'était un peu rétréci. Mais le vin avait et de la fraîcheur, et c'est pas ce qu'on cherche, uniquement de la fraîcheur dans un vin de champagne vieux, mais une énorme puissance en bouche, une grande longueur. Enfin, c'était l'extase, purement et simplement. Après, j'ai sorti des claret, comme on dit en Angleterre, des rouges de Bordeaux. Il y avait un vin qui m'a beaucoup déçu, mais c'était le cas de beaucoup de sans millésime, un Lafon Rocher 75. Très maigre, très dur.
75 étant une année bizarre, Philippe.
Ouais, ouais. Une année dont on a beaucoup parlé.
Ça ne s'est jamais ouvert.
Ça a rangé beaucoup de gens. Ouais, on parle dans bien de ce millésime, mais ça n'a jamais été un grand millésime.
C'était pas un grand millésime.
Un peu du côté de Pommerol Saint-Émilion. Ouais. Les Merlots étaient mieux, mais côté Médocain au Grave.
C'est ça, exactement. Et le seul, parce que j'avais acheté un lot de 12 bouteilles de 75 pour fêter justement les anniversaires de ma fille. Et le seul qui était bon, c'était Cheval Blanc.
Ah oui, ouais. Étonnant. Vous avez une vie difficile, vous aussi.
Et après, du coup, pour me rattraper, j'ai sorti un Léo Velasquez 70. J'avais acheté 6 bouteilles il y a 10 ans pour pas cher.
C'est à son comble.
D'une finesse extraordinaire. Allez. C'était la deuxième bouteille que j'ouvre. La première était un peu passée, un peu fatiguée, un peu délavée. Et celle-ci était très fine. Les tanins étaient fondus, c'était soyeux, c'était subtil. Là aussi, il y avait un coup de cœur parce que quand j'ai rencontré ma présente épouse, c'était autour d'une bouteille de Léo Velasquez 70. Donc, vous voyez.
Faites bien les choses, vous.
Non, mais il y a toujours ces trucs-là qui vous font flasher sur certains.
Et vous, Philippe, votre présente épouse, comme dirait David, c'était sur quelle bouteille?
Sur plein de choses. Là, mais non, je voulais juste rebondir sur quelque chose qui est très important dans le propos de David. C'est une bouteille de ce millésime-là. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les Léo Velasquez 70 qui sont extraordinaires ou tous les. Moi, j'ai mon plus. Un de mes souvenirs les plus marquants de très vieux vin, c'était un Aubryon 29.
1929.
Mais la bouteille était remarquable. On avait goûté ça, c'était au début des années 90.
Il faut 90. Nous inviter, on peut se libérer ce jour-là quand vous avez encore des 29.
Dire, et pour vous dire le delta de l'approche, on dégustait ça à l'aveugle. Le premier qui a parlé de mes amis sommeliers, qui étaient pourtant vraiment des grands sommeliers, je ne vais pas les citer pour ne pas les mettre mal à l'aise, mais il avait dit c'est peut-être un 82.
82 pour dire
la jeunesse du vin.
Ça, c'est
et vous,
meilleur souvenir
au plus ancien, on est descendu à 45, et le celui que vous invitez, il dit vous n'êtes pas loin, mais c'est 29.
Ah, là, c'est fou. Et vous, Hélène Piau, votre meilleur souvenir de vin un peu âgé, c'est quoi?
Moi, c'est sur des champagnes qu'on n'a pas l'habitude de boire. Très anciens, effectivement. Et j'ai souvenir d'un Krug 1929 dégusté en plus Krug, avec les frères Krug.
Et encore 29, c'est
récemment, j'ai bu un Clos des Lambrais 1938.
Nous sommes dans quelle région, là?
Alors, en Bourgogne.
Avec un prix à l'hectare très raisonnable aussi.
Voilà, il vient d'être vendu cette année.
Et quelle année, alors?
1938.
Ah, quand même! Et vous, André, votre
et la jeunesse était extraordinaire aussi.
C'est ça qui est bluffant.
Moi, j'ai un petit peu honte, j'ai oublié le millésime, mais c'est un grand Bourgogne. Et c'était chez un monsieur qui, à mon avis, n'est plus présent, qui était l'antiquaire de vin, qui était dans le 7e arrondissement.
Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. Et sur une quelle année vous avez
qui avait quelques bouteilles qu'il pouvait vendre et quelques bouteilles qu'il ne pouvait pas vendre parce qu'elles étaient un petit peu sur l'épaule. Le niveau avait descendu.
Et la grande émotion aussi.
Et donc, on les goûtait.
David?
Alors, si on va en Bourgogne, alors pour finir ce repas, on a fini par une petite douceur de Val-de-Loire. Le haut lieu de chez Huette, 1989, beaucoup plus jeune, mais ce vin magnifique aussi. Ça me fait penser à Monsieur Huette, que j'ai eu le privilège de rencontrer à deux reprises, quand j'ai commencé ma carrière dans le vin, un monsieur d'une gentillesse extraordinaire. Donc, je trouve que là, derrière ça, on lit les hommes, on revit ce passé.
Aussi,
et puis, on pense, quand on goûte un vieux vin, moi, je me dis toujours, mais mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, parfois, aurait pu boire ce vin-là. Ouais. Donc, ça fait un lien. C'est le seul produit, à ma connaissance, qui vous fait voyager dans le temps, dans les deux sens.
Belle chronique, David Cobold. Merci beaucoup, David. Ingino Sudardio, on retrouve maintenant Laure Gasparotto, journaliste au Monde, qui nous amène en Savoie. Elle a découvert d'un petit resto sympa qui a juste trois macarons Michelin. Quoi.
Voilà, et c'est justement...
Elle est dure, votre vie, vous aussi.
Voilà, ben oui, ça m'arrive. Donc là, j'étais à La Bouite, C'est à la Bouite que j'ai goûté ce Clos des Lambrais 1938.
Ah oui, après le Bouisse, le Bouite.
Oui, exactement.
Voilà, c'est ça.
Passer de l'un à l'autre.
Lors d'une soirée œnologique qu'organise régulièrement ce restaurant, une fois par mois, je vous donnerai le programme à venir, et c'est pas mal non plus. Et là, c'était donc une soirée œnologique autour de Thierry Brouin, qui est le régisseur du Clos des Lambrais, qui fêtait un peu son départ à la retraite. Et donc, on a goûté quelques millésimes de 2016 à 1938. Voilà. Et donc, la Bouite se situe à Saint-Martin-de-Belleville, dans un tout petit hameau qui s'appelle Saint-Marcel. Et on est vraiment à côté des stations du Ménouir et de Val Thorens. Et vraiment, c'est un lieu où je me suis rarement sentie aussi bien dans un trois macarons que là. Parce que, d'abord... Bon, on a l'exemple de père et fils. C'est assez rare que père et fils s'entendent si bien. Bon, on a les trois gros. On a l'exemple des trois gros, hein, Michel et César, qui s'entendent aussi merveilleusement bien.
Les bras aussi.
Et les bras. Non, les bras ne travaillent pas vraiment ensemble. Mais bon, Michel et César travaillent ensemble. Et là, donc, la Bouite est tenue par la famille Meilleur, René et le père, qui a créé ce restaurant en 1976 avec sa femme. C'était un champ de patates. Et en fait, son idée, c'était juste de créer un restaurant de fondue, de raclette, de produits pour alimenter les skieurs. Ouais. Hein, c'était vraiment ça l'idée.
Avec des petits blancs qui étaient à l'époque très, très blancs.
Et le fils Maxime, lui, il était sportif. Il était spécialisé dans le biathlon. Il était en équipe de France. Et puis, René, le père, a eu un déclic en allant en 1984 dîner chez Bocuse. Et là, il s'est dit, mais peut-être que je peux faire autre chose. Et il a commencé à affiner sa cuisine à tel point qu'il a vraiment recherché. Puis il a fini par avoir une première étoile, puis une deuxième.
Ah oui, carrément.
Et puis, il y a quelques années, je crois, 2015.
Il est autodidacte.
Autodidacte, ah oui. Voilà. Enfin, il avait fait des stages dans des restaurants, mais c'était vraiment l'esprit de commerce. Hein. Et du coup, ils se sont concentrés, en fait, sur la cuisine savoyarde, mais la haute cuisine
savoyarde.
Qu'est-ce
que c'est comme plat, par exemple, signature, ou en tout cas qui vous a ému?
En tout cas, le plat signature, alors, c'est... en fait, ce sont des poissons des lacs d'Annecy et du Bourget. Il a un poisson, ça s'appelle le ferra.
Le ferra.
Donc, et ça, c'est un de ses plats signature, un ferra pané d'une fine feuille de pain croustillante, c'est très très bon. Et puis, en fait, vous saviez que le plus ancien traité de gastronomie d'Europe vient de Savoie. Il a été écrit par le maître Chicard, qui était cuisinier d'Amédée VIII de Savoie.
Un grand copain d'Aline Piau.
Voilà. Non, je ne pense pas, parce que c'était écrit en 1420.
Sur son arbre perché.
En 1420. Et en fait, Actes Sud a réédité cet ouvrage. Et donc, les meilleurs retrouvent vraiment la haute cuisine savoyarde.
Ah, c'est génial, c'est une belle histoire.
Avec vraiment des
plats. Et les prix, là, ils sont comment? Parce que c'est bien, on s'emballe, tout ça, 29, tout ça. Mais on dit pour combien, trois macarons? Ça coûte cher, ça, non? Parce que...
Mais je pense que c'est un des moins... Alors, il y a 26, trois macarons, mais je pense que celui-là fait partie des moins chers des trois macarons.
Donc, ça veut dire quoi? 20 inclus dans les 150, 200 euros?
Oh oui, c'est quand même au moins 200 euros.
D'accord,
quoi.
250
ouais.
euros.
Ouais.
Et la carte des vins?
Alors, la carte des vins, elle est magnifique. Il y a 1200 références.
Ah, quand même !
Et justement...
Donc, vous avez passé trois semaines chez lui, non ?
Il y a 1200 références, parce qu'en fait, les meilleurs sont vraiment mes fanas de vin. Et c'est la raison pour laquelle ils font venir très régulièrement donc, les
vignerons. Quoi.
Par exemple, le 19 décembre, c'est Christophe Roumier qui animera un dîner.
Ah, très bien. Donc, on peut s'inscrire, alors.
Notre grand vigneron bourguignon.
Le 16 janvier 2019, c'est Jean-Michel Dice qui sera là.
Les Alsaciens.
En février prochain, ce sera le comte Abatucci, domaine des comtes Abatucci.
La Corse d'Ajaccio.
Après, en avril, ce sera Jean-Philippe Delmas qui présentera la mission Brion et Aubryon.
Et comment vous faites pour être tout le temps en restaurant et rester comme ça là, parce que nous avec Philippe quand on va au restaurant on grossit comme tout le monde, enfin vous, qu'est-ce qui se passe là-dedans?
Quand on lit la carte on grossit.
Merci en tout cas, merci à vous Laure Gasparotto, merci également à Hélène Piau, André Derieux, Philippe Orbach et David Cobold. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fm ou sur notre page Facebook Invino. D'ici l'excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.
Sud Radio Invino.